France Culture.
Présenté ce midi par Antoine Geoffin. Bonjour Antoine.
Bonjour à tous. Jour de vote en Roumanie, deuxième tour de l'élection présidentielle. Attention particulière de la communauté internationale après l'annulation du scrutin à l'automne dernier pour des soupçons d'ingérence russe. Premier bain de foule parmi les fidèles pour le pape Léon XIV. Le souverain pontife a donné ce matin sa messe d'inauguration sur la place Saint-Pierre au Vatican. Nous y serons. Dans ce journal aussi, les drones russes qui sèment la mort en Ukraine, les civils particulièrement touchés. Le ministre de l'Intérieur de la France qui souhaite construire une prison de haute sécurité en Guyane. Et puis nous parlerons de la mucoviscidose, cette maladie génétique rare qui touche 7000 personnes en France. Notre invité est le directeur général de Vaincre la mucoviscidose. L'extrême droite sera-t-elle au pouvoir ce soir en Roumanie? Second tour de l'élection présidentielle aujourd'hui après l'annulation du scrutin de novembre 2024 qui avait porté un inconnu en tête, Calin Georgescu, suite à des ingérences russes sur TikTok. Le scrutin a donc été annulé. Ce sont deux Roumanies qui s'affrontent donc aujourd'hui. Une qui souhaite continuer le chemin pro-européen entamé il y a 35 ans et l'autre traditionnaliste, souverainiste voire complotiste. Virginie Pierronon, vous suivez l'élection dans le pays pour France Culture et vous avez rencontré ce matin des soutiens de Jorge Simeón, venu à son bureau de vote.
Et parmi ses partisans,
le Christ est ressuscité.
Beaucoup affichent leur appartenance à la religion orthodoxe. C'est le cas de Luciane, 47 ans, écharpe aux couleurs de la Roumanie autour du cou, qui brandit une croix orthodoxe. Pour lui, religion et politique ne font qu'un.
Oui, c'est un nouveau courant contre cette politique corrompue, soumise à des forces mondiales occultes et sataniques. Cette politique va prendre fin. Et ce nouveau mouvement, avec des gens croyants, avec une morale, des gens qui aiment la famille, tous veulent que la Roumanie fleurisse et devienne un paradis.
Avec ses fossiles, cheveux noirs, Loredana, 36 ans, est tiktokeuse, 100 000 abonnés. Depuis l'annulation du scrutin de novembre dernier, la jeune femme est de toutes les manifestations. Oui, je continue mes posts sur TikTok. Je suis venue voter pour M. Simeón, notre président. C'est pour ça que je suis là. Et j'invite tout le monde aujourd'hui à aller voter. Comme tous les partisans de Jorge Simeón, la jeune femme ne veut même pas envisager une défaite ce soir. Parmi les fausses nouvelles qu'elle relaie sur son compte TikTok, le fait que le pro-européen Nicu Jordan, maire de Bucarest, souhaite fermer les églises pour les reconvertir en salon pour de l'événementiel.
Virginie Pierronneau, envoyée spéciale de France Culture en Roumanie. On vote aussi en Pologne aujourd'hui. Les Polonais appelés aux urnes depuis ce matin 7h. C'est le premier tour de l'élection présidentielle. Le gouvernement actuel pro-européen joue sa survie. Le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, en faveur de l'Union européenne, est le favori autour de 30% des intentions de vote devant l'historien nationaliste Karol Nawrocki, crédité lui de 25% par les instituts de sondage. Une pluie de drones russes s'est abattue la nuit dernière sur l'Ukraine. Kiev affirme en avoir intercepté 88 sur les 273 tirés par l'armée russe. Plusieurs régions ukrainiennes ont été touchées, notamment celle de la capitale où une femme a été tuée selon les autorités locales. Hier, une frappe de drone avait déjà tué 9 civils voyageant dans un minibus près de la ville de Soumy, proche de la frontière russe. Dans ces zones frontalières, les drones à courte portée sont de plus en plus meurtriers pour les non-combattants. Récit de l'envoyé spécial de France Culture en Ukraine, Isabelle Labéry.
C'était le 24 octobre. Lyubov, 71 ans, faisait son marché à Kupiansk quand la mort est tombée du ciel.
J'étais à 30 mètres du lieu de l'explosion. J'ai vu une grande traînée de feu.
La vieille dame est victime d'une commotion cérébrale. Il lui reste une belle cicatrice au front et un œil un peu capricieux.
J'ai une seule question. Pourquoi ? Pourquoi souffrons-nous ? Pourquoi le peuple ukrainien est-il tombé dans cette guerre ? Mais ça va aller. On va gagner. Et si on garde du soleil dans notre âme, tout ira bien.
Lyubov chante pour éloigner la peur. À Kupiansk, comme dans toutes les villes proches de la ligne de front, les drones à courte portée sont devenus la menace numéro un. Légers, rapides, ils font exploser tout ce qu'ils trouvent, voitures, bus ou piétons.
Des gens nous ont raconté qu'ils vivent dans la terreur permanente et l'isolement.
Daniel Bell dirige la mission onusienne de surveillance des droits de l'homme en Ukraine.
Les opérateurs de drones sont censés distinguer leurs cibles, vérifier qu'elles sont bien militaires et pas civiles. Le monde doit faire pression sur la Russie pour qu'elle respecte le droit international humanitaire.
En janvier, les drones à courte portée russes ont fait plus de victimes que tout autre type d'armement.
Isabelle Labéry en Ukraine pour France Culture. Direction le Vatican à présent, où la messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV s'est tenue ce matin, place Saint-Pierre, devant 100 000 personnes, d'après le décompte des autorités italiennes. Bonjour Bruno De Vic.
Bonjour.
Envoyé spécial permanent de France Culture au Vatican. Bruno, quelques gestes rituels et images symboliques ont lancé le pontificat du premier pape nord-américain de l'histoire.
Et cette promenade de Léon XIV en papa mobile, l'image entre toutes qui symbolise le passage de relais. Il y a un mois, un François à bout de force faisait un dernier tour dans cette voiture à la veille de sa mort. Ce matin, sur la Jeep blanche, c'est un pape debout qui a profité une vingtaine de minutes du bain de foule au milieu des clameurs et de ce fidèle italien, par exemple.
C'est une émotion unique. Je suis avec une cinquantaine d'écoliers de la région de Padoue. Ils sont très heureux. C'est un moment unique.
Puis la cérémonie sur le parvis de la basilique en présence de Volodymyr Zelensky qui sera reçu en audience aujourd'hui par le pape Léon XIV. On remet au pape ses attributs, le pallium, cette étoffe de laine, l'anneau du pêcheur, cette bague qui servait autrefois à cacheter les documents officiels. L'homélie, l'église doit être un exemple d'unité dans un monde qui se défait.
À notre époque, nous voyons encore trop de discordes, trop de blessures causées par la haine, par un paradigme économique qui exploite les ressources de la terre et marginalise les plus pauvres. Et nous voulons être un petit levain d'unité, de communion, de fraternité.
L'humilité du pape aussi, j'ai été choisi sans aucun mérite, dit-il lors de son homélie, et avec crainte et tremblement, je viens à vous comme un frère.
Bruno De Vic, en direct du Vatican pour France Culture. Plus aucun hôpital public ne fonctionne dans le nord de la bande de Gaza. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Les autorités gazaouis racontent que les soldats israéliens ont intensifié leur siège. Les tirs empêchent donc les soignants, les patients, ainsi que les fournitures médicales d'entrée, dit encore le ministère de la Santé. Ce matin, la défense civile locale a aussi annoncé la mort de 33 Palestiniens, surtout des enfants, dit-elle, dans des bombardements sur l'enclave. Il y aura une nouvelle prison de haute sécurité en Guyane. Le ministre de la Justice l'annonce ce matin dans le journal du dimanche. En visite dans le département, Gérald Darmanin promet 500 places pour les détenus, un quartier spécialisé pouvant accueillir 60 narcotrafiquants, ainsi qu'une aile pour une quinzaine de détenus radicalisés. Il souhaite l'ouverture de la structure d'ici 3 ans. Héloïse Weiss, bonjour.
Bonjour.
Pour l'instant, tout reste à construire, Héloïse, et cette prison doit s'installer dans l'immense commune de Saint-Laurent-du-Maroni. C'est en pleine jungle guyanaise.
À des centaines de kilomètres de Cayenne, oui, à des heures même des premiers villages du territoire. Et cette prison, loin de tout, sera conçue pour résister à tout, aux évasions ou aux échanges d'informations, avec des surveillances électroniques constantes et des fouilles régulières pour le quartier haute sécurité. Car la stratégie du garde des Sceaux est simple, éloigner et frapper la criminalité organisée à tous les niveaux, dit-il au JDD, en tapant fort et dès le début des route du narcotrafic, ici en Guyane. Saint-Laurent-du-Maroni, c'est devenu un carrefour pour les mules, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui transportent de la drogue depuis le Brésil. Drogue qui est ensuite acheminée dans l'Hexagone, là où il faut neutraliser les têtes de réseau, poursuit Gérald Darmanin au JDD. Le coût du chantier de la prison s'élève à 400 millions d'euros et le préfet doit encore signer le permis de construire, mais c'est bien sur les ruines d'un bagne que ces nouvelles pierres seront posées. Entre 1850 et 1938, Saint-Laurent-du-Maroni était ce qu'on appelait alors le camp de la transportation, un port où débarquaient les prisonniers condamnés aux travaux forcés venus de métropole. Le bagne a vu passer 70 000 prisonniers.
Les précisions d'Héloïse Weiss. Merci. C'est une maladie qui touche un peu plus de 7000 personnes en France. La mucoviscidose, transmise par les parents à leur enfant. Maladie rare, génétique, mortelle, qui touche les voies digestives et respiratoires. Avec nous pour en parler, l'invité du journal de France Culture. Bonjour Thierry Nouvelle.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Vaincre la mucoviscidose. Votre association fête cette année ses 60 ans d'existence. En 60 ans, on l'imagine, la recherche a grandement évolué, de même que les traitements. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, Thierry Nouvelle ?
Effectivement, ça a considérablement évolué en 60 ans, même si aujourd'hui, la mucoviscidose ne se guérit pas. Dans les années 60, l'espérance de vie des enfants à la naissance atteints de mucoviscidose, c'était quelques années. Maintenant, l'âge médian au décès est de 40 ans, ça reste très jeune pour mourir. Mais on a fait des progrès immenses, à la fois en termes de prise en charge dans les hôpitaux, de dépistage. Le dépistage à la naissance, tous les enfants font l'objet d'un dépistage à la naissance depuis les années 2000. Il y a des établissements spécialisés qui sont créés pour prendre en charge. Et puis, il y a des traitements nouveaux qui apparaissent progressivement, qui permettent d'améliorer de manière spectaculaire la santé respiratoire de ces malades. Et ça ne concerne pas tous les malades, mais ça concerne beaucoup de malades. Et l'association investit tous les années de l'argent dans la recherche scientifique et pour la mucoviscidose. C'est près de 200 millions d'investis sur 60 ans d'existence de l'association, ce qui permet de faire avancer les choses en termes de recherche et puis après des traitements qui apparaissent.
Alors Thierry Nouvelle, vous nous parlez d'espérance de vie, vous nous dites aujourd'hui c'est 40 ans pour un malade. Parlons de confort, c'est-à-dire vous nous rappelez qu'il n'y a pas aujourd'hui de traitement à proprement parler pour vaincre la mucoviscidose qui est le nom de votre association. Comment on vit aujourd'hui avec la mucoviscidose ? Est-ce que au moins les traitements font que les malades vivent, j'allais dire, de façon plus confortable, si on peut le dire ainsi, avec cette maladie qui est très handicapante au quotidien ?
Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu au début de la création de l'association, c'est clair. Cela étant, c'est des soins quotidiens, c'est des soins, c'est des traitements tous les jours, hein, donc des médicaments à prendre tous les jours. La mucoviscidose ne prend toujours pas sa retraite, donc on vit beaucoup mieux. Les patients, pour beaucoup d'entre eux, peuvent suivre une scolarité presque normale, et donc accéder à un travail pour un certain nombre d'entre eux, pour à peu près un patient sur deux qui peut accéder à un travail. Il reste encore un sur deux qui ne peut, pour les raisons de santé et de contraintes de soins, ne peut pas accéder à un emploi. Donc c'est beaucoup mieux qu'avant, c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il faut encore se battre. 60 ans d'existence d'une association, c'est énorme, c'est beaucoup de combats gagnés, et tout ceci grâce à la solidarité des Français, parce que notre association vit quasiment exclusivement au travers de la générosité du public. C'est notamment l'occasion des Virades de l'Espoir qui a lieu tous les derniers week-ends de septembre chaque année.
Votre grand événement, oui.
Ouais, chaque année, depuis la création des Virades de l'Espoir, ça fait 40 ans que ça a été créé, on a récolté 150 millions d'euros, ce qui nous a permis d'investir fortement dans la recherche pour la mucoviscidose. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un espoir sur la mucoviscidose, on voit la lueur de plus en plus nette. Il y a encore des patients qui meurent de la mucoviscidose. En 2025, on meurt toujours de la mucoviscidose.
Thierry Nouvelle, vous nous parlez justement de ces motifs d'espoir. Les traitements, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui, quelles sont les pistes, que ce soit en France, que ce soit la recherche internationale, qui vous font espérer que demain on puisse dire la mucoviscidose désormais se soigne, on en guérit ?
Alors, sans en guérir, c'est encore un peu loin, mais on a encore des espoirs d'avoir des traitements. Là, on a eu des traitements récemment, on appelle les thérapies de la protéine, qui permettent effectivement de restaurer une partie de la capacité respiratoire des patients. Donc ça, c'est une première chose. Pas pour tous, pour une grande partie d'entre eux, donc ça, c'est bien. Il y a une quinzaine de pourcents de patients qui ne peuvent pas bénéficier de ces traitements parce que la mucoviscidose est une maladie extrêmement complexe avec 2000 mutations sur un seul et même gène. Donc il y a des... Mais ces traitements-là, aujourd'hui, n'agissent pas. Donc, on est sur d'autres types de traitements avec des thérapies à base d'ARN messager, donc comme ce qu'on a pu voir pour les traitements à l'occasion du Covid, des vaccins anti-Covid. On a quelques essais encore qui apparaissent sur la thérapie génique qui permette, on espère qu'à un moment ou à un autre, ça permettra effectivement de soigner et de guérir, mais on en est encore très très loin, on est dans des phases précliniques ou début clinique. Donc c'est vrai qu'on investit, on investit dans la recherche, parce qu'on sait que c'est par là que
ça va, passer,
ça va se passer. C'est indéniablement, et aujourd'hui en fait, nos 60 ans à la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est un beau clin d'œil à la science, parce que c'est quand même par la science que tout ceci peut une réponse positive peut arriver.
Merci Thierry Nouvel, directeur général de Vaincre la mucoviscidose. Merci d'avoir été notre invité sur France Culture. Un mot de météo pour vous dire que cet après-midi, c'est du beau soleil pour tout le monde, de 17 degrés à Cherbourg jusqu'à 28 à Toulouse et Bordeaux.